Et là encore, lever le voile sur le sujet permet de dédramatiser, permet d'accepter qu'on ait un proche qui dise « je veux mourir ». J'allais dire « ça enlève de la peur », mais c'est pas vrai. On peut avoir très peur néanmoins. Mais le sujet est posé sur la table. Pour celui qui s'en va, c'est vraiment la magnifique opportunité de faire du ménage sur le bureau de sa vie et d'en parler avec tous ceux qui comptent. Et ça, c'est essentiel. Puis il y a beaucoup de personnes âgées qui disent qu'elles veulent mourir de leur vivant.
Très belle expression. Ouais.
C'est ça. Et puis, ce qu'on ne connaît pas assez aussi, je n'ai pas la statistique en tête, mais elle m'avait surprise quand je l'ai lue, c'est le nombre de personnes âgées qui se suicident parce qu'elles ne veulent pas mourir malades, elles ne veulent pas mourir souffrantes, elles ne veulent pas aller en EHPAD. Mais là, inévitablement, ça me fait faire le lien à l'éducation et aux enfants. C'est-à-dire que il y a encore pas si longtemps, la mort, elle était dans les foyers.
On mourait chez soi.
On mourait chez soi. Aujourd'hui, 87% des gens meurent à l'hôpital. C'est colossal. Donc on mourait chez soi, les enfants côtoyaient la mort, on veillait papy, les enfants jouaient au pied. Voilà. Là, aujourd'hui, je rencontre encore des parents qui sont plus jeunes que moi, j'ai 53 ans, qui n'osent pas emmener leurs enfants aux obsèques. Même si c'est pas un proche et tout, mais l'idée que d'emmener les enfants dans un cimetière ou tout ça, ça va les traumatiser. Mais en fait, pas du tout. Ça va juste les questionner énormément et ils vont être avec plein de questions sans réponse.
Alors justement, restons là-dessus. Pourquoi la mort, en fait, elle est autant tenue à distance dans nos sociétés occidentales contemporaines? Le cadavre, il est déshumanisé, caché, lissé. La mort, elle est écartée. Pour reprendre une expression volontairement un peu ancienne, on parle de souillure sociale, là, du tabou. Est-ce que tu peux un peu revenir là-dessus? Et aussi, qu'est-ce que ça dit de nos sociétés?
Alors moi, je vois trois explications. Il y a une première explication qui a été à la fois sanitaire et réglementaire. C'est-à-dire qu'en fait, les cimetières, tels que nous les connaissons aujourd'hui, ils existent depuis 150 ans, pas plus. Parce que à un moment donné, il y avait de plus en plus de morts. Historiquement, on mettait les morts près des églises, voire dans les églises. Ou alors chez soi, ou au bord des routes. C'était un peu ça. Bon, il y en a de plus en plus d'humains, donc il y avait de plus en plus de morts. Donc à un moment donné, ça fait aussi des choses, des maladies, des villes avec beaucoup de morts. Donc il faut commencer à les mettre dans des boîtes. Donc obligation de mettre un cercueil. Et puis ensuite, on va l'éloigner des centres-villes, parce que là, c'est la deuxième explication, la religion qui s'en mêle. C'est le rituel avec tout ce que ça implique, les morts pas propres, les gens qui sont pleins de péchés, y a tout ça. Donc il y a tout cet univers autour d'un peu la diabolisation de la mort, ou toutes les étapes qu'il faut pour avoir une mort sereine, voilà, qui est prise en compte, et puis ben, on les écarte des centres-villes. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on a les cimetières à l'écart des villes. Terre-Cabade, qui est en plein centre-ville de Toulouse aujourd'hui, avant, au début, il était tout seul, il n'y avait rien autour. C'est la ville qui est venue se mettre autour. Ailleurs, dans les villages, et de la même manière, on continue de trouver aujourd'hui les crématoriums, les entreprises de pompes funèbres, entre le Aldi et le Carrossier. C'est une réalité. Donc ça aussi, c'est une problématique, parce que la mort n'est plus dans la cité.
Le cimetière, qui est pour nous, dans notre expérience actuelle, l'exemple le plus évident de l'hétérotopie. Le cimetière, c'est absolument l'autre lieu. Eh bien, le cimetière n'a pas toujours joué ce rôle dans la civilisation occidentale. Jusqu'au XVIIIe siècle, le cimetière, eh bien, il était au cœur de la cité. Il était disposé, là, au milieu de la ville, tout à côté de l'église, et, à vrai dire, on ne lui attachait aucune valeur bien solennelle. Sauf pour quelques individus, le sort commun des cadavres, c'était tout simplement d'être jeté au charnier sans respect pour la dépouille individuelle. Or, d'une façon très curieuse, au moment même où notre civilisation est devenue athée, ou du moins plus athée, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, on s'est mis à individualiser les squelettes. Chacun a eu droit à sa petite boîte et à sa petite décomposition personnelle. Et d'un autre côté, on a mis tous ces squelettes, toutes ces petites boîtes, tous ces cercueils, toutes ces tombes, ces pierres, on les a mis à part, on les a mis hors de la ville, à la limite des cités, comme si c'était en même temps un centre et un lieu d'infection et en quelque sorte de contagion de la mort.
Et on rajoute à ça plus récent dans l'histoire du XXe siècle. Il faut être en forme, il faut être beau, il faut être vivant. C'est la vie à tout prix. Le vieux, le moche, le malade, etc., c'est caché. Et puis, il y a l'éclatement des familles. Les plusieurs générations qui vivent ensemble, ça n'existe plus. Ça va avec les vieux qu'on va cacher, puisque ben, les EHPAD... On rejoint tous ces sujets de fond, de jeunes générations, qui cohabitent mal avec les précédentes. Et la mort, ça fait partie de ce qui est mal vécu par les jeunes générations. D'où le soin nécessaire pour les vieilles générations d'en parler.
Est-ce que tu penses qu'aussi cette mise à distance, que moi je vois aussi comme une forme de dépolitisation, d'appauvrissement symbolique collectif, il n'y a pas une idée de domestication de l'émotion? On est aussi en maîtrise de ses émotions quand on est en maîtrise de soi à chaque instant de sa vie, quoi.
Absolument, c'est exactement ça. Il n'y a pas cette reconnaissance émotionnelle de cette étape de la vie. On va bien reconnaître plein d'autres étapes. Et elles vont être reconnues comme telles. C'est pour ça qu'il y a tellement de mouvements, de développement personnel, de contenu.
En 10 ans, je pensais à ça. Vraiment,
voilà, ouais. C'est-à-dire que là, c'est de la surdose. Hein, toujours pour aller vers « je vais mieux », ou « je reconnais mes émotions », mais pour du positif. Puis après, même plus pragmatiquement, si aujourd'hui je suis en deuil, je perds un de mes parents, je crois que j'ai droit à 3 jours de congé. Je perds un de mes enfants, je crois que j'ai 5 jours. Je perds un frère, je crois que j'ai 2 jours. C'est n'importe quoi. La durée moyenne du temps que les gens s'arrêtent de travailler après un décès, sous forme d'arrêt maladie, qui coûte très cher à la sécu, c'est entre 6 et 7 mois. C'est le temps que l'humain a besoin, physiologiquement, et ça a été prouvé, pour pouvoir traverser, faire le processus du deuil.
Pas 5 jours, quoi.
Non. Pas 5 jours, non. Et vous imaginez, pour le deuil d'un enfant, je perds un enfant.
T'animes ou co-animes des cafés mortels. Ça a été inspiré par le sociologue Bernard Créta, qui a beaucoup œuvré à libérer la parole autour de la mort. Il parlait de « ma sœur, la mort ». Je te fais écouter un son, j'ai un peu compilé, pour te faire agir juste après.
Dans la vie assez turbulente que je vis, pris entre... La recherche de la sagesse avant de mourir et la dispersion dans ce qui reste de vie à vivre, je vais régulièrement dans la mise au tombeau pour que le Seigneur me prenne dans sa nuit. On verra bien plus tard s'il me conduit à sa lumière, mais pour le moment, j'invoque la nuit. Alors, avec le vieillissement, il y a des tas de choses que je pensais évacuer qui remontent à la surface, dont je me dis, mais c'est pas possible, Bernard Créta, que tu en sois encore là. Et donc, je fais acte de modestie en disant, tu as encore des peurs de l'enfance à exorciser. Dans la complexité des masques identitaires qu'on a portés dans notre vie, un jour, au moment de la mort, dans l'énigme qui se passe, je pourrais bien recevoir la lumière de qui j'ai vraiment été au fond de moi, ce qui, plus je vieillis, plus je m'échappe. J'ai de moins en moins de certitude.
Quelque chose qui m'a étonné, parce qu'il y a une des phrases au tout début que j'arrive pas véritablement à saisir. Toi, il parle de recherche de la sagesse avant de mourir. Et il parle de la dispersion de ce qui reste de vie à vivre. Très beau déjà, de ce qui reste de vie à vivre. Et je n'arrive pas à savoir s'il dit ce qui reste de vie à vivre ou les humains qui restent à vivre. J'ai aimé cette confusion entre la vie, les gens. Bon, je te laisse te débrouiller un petit peu avec tout ça.
Mais... Oui, c'est ça. Alors moi, je l'écrirais qui reste de vie à vivre. Parce que c'est vraiment... là, ça fait directement écho à ce que je vis, moi, au quotidien. À savoir que depuis que j'ai ouvert ce sujet de la mort et de m'y intéresser comme je le fais, je ne me suis jamais sentie aussi vivante de toute mon existence, en fait. Parce que ça m'amène une perspective sur ma vie et ma façon de la vivre totalement différente.
Donc ce qui te reste de temps à vivre, c'est ça?
C'est ça.
Donc en profiter.
Oui.
Avoir conscience.
Avoir conscience. Ajouter de la vie au jour, à défaut d'ajouter des jours à la vie. C'est pas de moi.
Alors je crois que comment on fait ? Eh ben on fait comme on peut, avec ce qu'on est, avec ce qu'on vit aussi. C'est une règle de vie qui se révèle souvent dans l'épreuve et dans l'urgence, comme le professeur Bernard qui a beaucoup œuvré pour les soins palliatifs et qui disait bah, « quand il n'y a plus de jours à ajouter, on peut toujours ajouter de la vie ». Mais en fait, quand on s'approche de cette règle de vie, c'est notre règle de vie à tous, finalement. C'est juste, qu'est-ce que c'est que la vie ? La vie, c'est un instant, la vie, c'est maintenant. Si j'habite aujourd'hui, si j'habite maintenant, je vis. Et comment je fais ? Eh bien, je vis autant ma peine que ma joie. Aussi simplement ma peine que ma joie. Oui, parce qu'on peut croire qu'ajouter de la vie au jour, c'est vivre dans une espèce de boulimie de vie. C'est ce que j'avais fait avec Thaïs, d'ailleurs, au début, j'avais dit, puisque ta vie va être courte, t'as le droit de faire ce que tu veux. Donc, elle regardait les dessins animés jusqu'à 3h du matin, elle mangeait que de la mousse au chocolat. Bon, en fait, au bout de quelques temps, elle était complètement inquiète. Ajouter de la vie au jour, c'est pas juste chercher le bonheur et le plaisir, c'est assumer la peine aussi. C'est se dire, eh ben, ça fait partie de ma vie. C'est ma vie aussi. C'est pas ce que j'ai choisi, mais ça en fait partie et je vais le vivre. Je vais autant investir la peine qu'investir les moments joyeux. Et je pense que si on ne vit pas bien sa peine, on ne peut pas être heureux.
Initialement, en fait, tu devais venir pour nous parler d'un goûter-jeu mortel pour enfants et leurs proches, envisagé comme un espace sensible, joyeux et sans tabou. Pourquoi tu avais décidé de t'adresser aussi aux enfants ?
Pour qu'ils puissent nous faire part de leurs émotions quand ils rencontrent la mort. Parce qu'en fait, les enfants sont confrontés à la mort... parfois sans qu'ils le sachent, ne serait-ce que quand ils tombent sur une petite fourmi ou un insecte ou une plante, n'importe quoi, quelque chose qui est mort. Et parfois, ça va les émouvoir, mais ils ne comprennent pas bien pourquoi. Et donc, je trouvais très intéressant de proposer un format, et c'est ce que nous avons fait. Alors malheureusement, je souligne que les parents, ils n'osent pas amener leurs enfants, par contre. Je pense que ça leur fait peur. Mais donc, la proposition, en fait, c'est à travers des jeux. Alors, il faut que les enfants aient minimum 6 ou 7 ans. Parce qu'avant cet âge-là, c'est un concept qui est trop difficile pour un tout petit. Mais à partir de 6-7 ans, ça marche. Et donc, c'est leur proposer, par des petits jeux, déjà, de se reconnecter avec leurs propres émotions. Où je vais les faire travailler sur... les faire penser à leur héros préféré. Et puis, est-ce que ce héros, il rencontre des difficultés ? Est-ce qu'il a peur ? Est-ce qu'il est triste ? Quelles sont les situations où il s'est ému pour ce héros ? Et est-ce que ça lui fait penser à des émotions qu'il a vécues lui-même ? Et puis, si on anime ce goûter dans un jardin, je vais leur demander d'aller glaner des choses qui sont mortes, qui me ramènent des trucs morts, et qu'on en parle. Et de là, en fait, ça me permet d'aller ouvrir le sujet tranquillement sur « mais est-ce que la mort dans la famille ou quelque chose, est-ce que ça s'est déjà arrivé ? Est-ce que tu as déjà des questions ? Ou peut-être tu l'as vu chez un petit copain dans ta classe, etc. etc. » Et l'important dans tout ça, c'est qu'en fait, on dédramatise. Ça rassure beaucoup les parents. Si les parents ont eux-mêmes vécu des deuils difficiles, parfois ce sont des blessures qu'ils n'ont jamais résolues et qui ressurgissent dans leur vie sans s'en rendre compte, au détriment de leurs proches. Ils ne font pas directement le lien avec le fait que c'est un deuil qui a été mal vécu. Mais à un moment donné, ça vient un peu mettre la pagaille quoi, dans la vie. Parce que la société ne reconnaît pas, ou reconnaît mal ses émotions. Alors le deuil, il n'est pas vécu en conscience, il est traversé. On pense qu'on l'a résolu, on pense avoir fait son deuil. Je déteste ce terme « faire son deuil », ça n'existe pas. On pense l'avoir fait, ou l'avoir traversé, mais en fait, pas du tout. On l'a juste mis sous un tapis. Parce qu'il faut aller mieux, parce que la vie reprend, parce que l'entourage dit « Non, mais maintenant ça va, ça fait un an, tu peux passer à autre chose, tu devrais sortir. » En fait, il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Chacun est unique avec son deuil. Comme toute blessure qu'on va mettre de côté, à un moment donné, ça ressurgit. Et donc, parfois, les enfants, ils sont confrontés à des situations bizarres dans leur famille, parce que bah, y a un nouveau deuil qui se présente, parce que c'est la vie, parce que mamie est morte, parce que des choses comme ça. Et ça fait des déflagrations chez leurs parents, qui ne sont pas du tout maîtrisés, et ils ne comprennent pas, en fait, parce que... Et les parents sont dépassés, voilà. Et donc, créer des goûters mortels, c'est inviter les deux générations, voire trois générations. J'aimerais bien avoir, et dans l'idéal, ça ne s'est jamais présenté, hein, mais les grands-parents, les parents, les enfants, qui en discutent entre eux. Et puis, ben, du coup, on se met à parler de choses très pratico-pratiques. Et alors, mamie, toi, quand tu voudrais être enterrée, tu veux quoi ? Et puis ça devient un sujet de conversation comme un autre. Et si on arrive à ça, ma mission est remplie.
Quel rôle joue le jeu dans ce processus?
Comme le jeu étant le canal de communication qui va permettre d'aligner tout le monde et de dédramatiser, ouais. Vraiment, on est là-dessus. Parce qu'un enfant, lui, il parle de la mort sans problème, en fait. Il dit des mots. Il a besoin de mots simples, de mots clairs. Si on lui dit « Mamie est partie », il va dire « Elle revient quand ?»
Elle est montée au ciel.
Ah bon ? Du coup, c'est bizarre parce qu'elle détestait l'avion. Ou elle va avoir super peur, elle avait peur de l'avion. Enfin, ça c'est réel. Donc, et ça, en passant par le jeu, en passant par des situations très anodines, ça permet aux parents de prendre conscience.
Et est-ce que tu penses que les enfants parlent de la mort entre eux ?
Je pense que oui. Je n'ai jamais assisté à des conversations entre enfants sans qu'ils s'en aperçoivent à ce sujet, mais je suis sûre que oui. Ne serait-ce que parce qu'ils ont plein de questions, donc ils se posent des questions entre eux. Mais bon, sans y mettre notre vocabulaire.
Quand on mourt, et ben après on peut plus voir ses parents, on peut plus jouer, on peut plus acheter à manger. C'est très grave. C'est ça la mort.
C'est quand on est trop vieux et qu'on peut plus tenir debout. Quand on est mort, on peut plus bouger.
Et on devient plus en plus vieux et on peut pas rester toute une vie. Donc on meurt pour laisser de la place à des gens qui naissent.
Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas aussi une ambiguïté? Parce que parler de la mort aux enfants, toi, ça peut passer comme parler de la mort d'un monde qu'ils sont en train de connaître.
Bien sûr, c'est ça. Bien sûr, c'est ça. Et dans l'inconscient collectif, c'est ça. Et donc, il y a aussi la peur vient certainement de là. Mais là, tu vois, ça me fait plutôt penser comment la mort est vécue par les adolescents. Parce que là, on est sur quelque chose de vraiment particulier chez les ados. Et peut-être ça vaut le coup qu'on s'y arrête. Les ados, ils ne vont pas parler de la mort avec leurs parents. Par contre, ils vont vouloir en parler entre eux. Et surtout si elle se présente. Un camarade de classe qui se tue dans un accident de voiture, il était là vendredi, il revient pas le lundi. Ça arrive. Alors bien sûr, l'éducation nationale va ouvrir une cellule de crise, il va y avoir un petit truc dans l'établissement scolaire, tout le nécessaire va être fait. Mais ça va durer quelques jours seulement. Ça ne suffit pas. Et les ados, ils ont besoin plus que jamais d'en parler entre eux. Et c'est là où il faut ouvrir des espaces de parole après coup, et pas juste la cellule de crise, même si elle est très efficace en soi. Il y a la question aussi du suicide des ados. Et là, ça rattrape ce que tu dis. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous offre l'avenir? Est-ce que ça vaut la vie, là vaut vraiment le coup? Et puis le suicide à cause de tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, ce qui va faire qu'un ado, il voit pas le bout, ou il voit pas la perspective. Et là, c'est crucial, parce qu'on est vraiment sur ces adultes en devenir, qui ont leur communauté à eux, qui ont leur croyance à eux, qui ont leur optimisme, parce que ils sont quand même tournés vers la vie par définition. En ouvrant la parole à cet endroit-là, ça peut vraiment nous garantir des jeunes adultes qui seront détendus avec ça. Et puis, en étant ados, à 13-14 ans, ils vont aller voir leurs parents, ils vont dire « Mais attendez, attendez, on nous a parlé de ça à l'école, alors t'as prévu quoi ? La crémation ou l'inhumation ?» L'humusation, t'en as entendu parler? Moi, j'aimerais trop que ça se passe comme ça. Moi, il y a 20 ans, mon fils qui revient de l'école et qui me dit « Maman, il faut absolument qu'on ait un compost dans le jardin.
Okay. » Il avait raison.
Il avait raison. Mais nous, on n'avait pas de compost jusque-là. Pour nous, c'était un truc... Mais c'est parce qu'il est revenu, en nous obligeant à le mettre, qu'on l'a fait. Et que maintenant, évidemment, on pourrait plus en passer. je me dis qu'on peut faire la même chose avec toute la mort.
Trois hypothèses qui peuvent permettre d'éviter la mort d'un proche. Première hypothèse, vous n'avez pas de proche. Deuxième hypothèse, vous mourrez avant les proches. Hein. Par contre, la troisième, je l'appellerai tout simplement la fin du monde. En ce moment, on a l'embarras du choix. À toutes les petites connes, les petits morts adorés, les défunts, les personnes à qui on a peur de penser. Leurs souvenirs résonnent. Alors pourquoi les oublier, tous ces défunts adorés? C'est quoi faire son deuil?
Un acteur qui s'appelle Aurélien Zoli, qui est basé à Toulouse, c'est la compagnie du Débarré, qui a créé un seul en scène qui s'appelle Vivant, que je vous recommande vivement.
Joli lapsus.
Très joli. Et avec ce spectacle qui, je le lui ai dit quand je l'ai rencontré la première fois, je lui ai dit Aurélien, ton spectacle est en train de changer ma vie. Il a semé des graines ce jour-là. Mmh. C'est de là que je suis devenue célébrante, quoi. J'ai voulu changer. Il y a un truc qui s'est passé. Son spectacle, c'est son histoire vraie, son témoignage, suite au suicide de sa petite sœur qui avait 17 ans. Et il raconte comment ça a changé sa vie, comment il est devenu comédien avec ça. Et c'est poignant, c'est drôle, c'est une pépite, ce spectacle. Et donc, avec Aurélien, on a envie d'aller ouvrir des choses, de proposer des formats, établissements scolaires ou MJC, pour qu'il puisse jouer son spectacle et qu'on ouvre des goûters pour les ados et parler de ça et faire un peu de la médiation culturelle orientée sur la mort. Ça serait l'idée. Il le fait déjà dans quelques établissements, mais on voudrait pouvoir lui donner une dimension un peu plus importante et puis que l'éducation nationale s'en empare. Enfin, qu'on puisse pouvoir un peu essaimer, parce qu'il y a un vrai enjeu sociétal là aussi.
Je pense qu'il y a, il y a un malentendu avec le deuil dans notre société. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu dans mon parcours. J'avais pas vraiment le droit d'être heureux quand j'avais envie de l'être. J'avais pas vraiment les rituels. Les rituels ont un peu disparu de notre société. Les rituels consistent à porter un chrysanthème fabriqué en Chine qui ne fait pas trop mauvais le jour de la Toussaint. C'est un peu léger, quoi, oui. Pour donner de la place à ses morts. On nous demande en même temps d'être discret avec notre malheur. Enfin, on ne sait plus quoi faire de ses morts. Et de sa tristesse et de ses émotions en général. Et j'ai senti que l'époque appelait à questionner cette thématique. Pour moi, en tout cas, c'était criant. J'ai immédiatement pris la décision de vivre, d'où le titre du spectacle qui vient conclure peut-être cet épisode vivant. Ce qui est plus facile, j'en doute pas pour moi à ce moment-là, que pour par exemple mes parents qui eux ont perdu leur fille de 17 ans. Eux, prendre la décision de vivre, c'est pas facile du tout. Et pour autant, en tant qu'artiste, moi j'ai eu à cœur de m'adresser à toutes les personnes qui se retrouvent dans une situation de traumatique, quoi, une situation de deuil. Il faut savoir que le deuil, c'est pas uniquement perdre quelqu'un, ça peut être plein de choses. Ça peut être un emploi, ça peut être une maladie, ça peut être même un déménagement. Il n'y a pas de hiérarchie de la souffrance. Et ça, c'est important. Moi, je pars de mon histoire parce que je voulais que la démarche soit complètement authentique. Et en même temps, j'ai l'accompagné de recherches, de documentation.
En reconnaissant l'émotion que provoque l'idée de mort ou de perspective sombre, peut leur permettre de prendre à bras le corps la vie qui se présente à eux et de la voir du plus bel angle. Je milite pour la vie. Fini.
Mais en plus, moi, je la vois même la vie comme interaction avec les actions militantes, politiques, parce que être en vie, c'est vouloir changer la société, en fait. En tout cas, y participer.
Chacun, à son échelle, pouvoir contribuer au projet collectif. Dans ça, où la dimension collective, coopérative, dont on parle depuis le début, elle est essentielle.
En fait, tu ramènes du collectif aussi, j'ai l'impression, dans quelque chose qui est vécu comme quelque chose d'individuel.
Mais rappelle-toi, au début, je parlais de « on remet la tribu autour de l'individu ». C'est vraiment ça. Après, la tribu, on lui donne une tribu, elle peut faire 10 personnes comme elle peut faire une agglomération, tu vois.
Famille choisie.
C'est ça. Communauté de vie, communauté de cœur. C'est ça. C'est le faire commun pour venir en soutien. Il y a vraiment cette notion de solidarité, d'entraide, de partage. Enfin, et puis s'il y a bien quelque chose qui relève du bien commun, c'est la mort et tout ce qui va avec. Moi, j'en ai plein des jeunes comme ça qui viennent dans mes apéros mortels. Ils ont jamais connu le deuil dans leur propre famille ou alors vraiment un vieux tonton qui connaissait pas. Ils ont leurs parents, ils ont leurs grands-parents et ils se questionnent et ils viennent. Et ils trouvent ça génial.
Moi, je l'associe à quelque chose de très militant. L'écologie, le féminisme, c'est quelque chose, en tout cas, j'espère, d'intégrer. Ça devrait l'être, quoi pas, la mort avec une dimension consciente, quoi.
Bah oui, consciente, j'aime bien le mot militant. C'est parce que c'est vraiment de ce registre, avec cette nuance que ça concerne absolument tout le monde.
Est-ce que vous pensez, jeune homme, qu'il est utile et opérant de laisser tous ces gens et vous-même vous rouler dans votre fange de tristesse, vous laisser aller dans votre malheur en vous posant d'éternelles questions lancinantes. Allez, maintenant faut passer à autre chose. Et de la mousse au chocolat, t'en veux de la mousse au chocolat? Non merci. Et mon malheur, t'en veux?
Thank you. fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons. Mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer. Au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.